France Inter.
Bonjour, c'est Pascal, Région Sud. Je suis en train d'écouter votre émission et je me dis que peut-être il serait bon de mettre un mot qui utilise le mot de sobriété associé à heureuse. Parce que quand on dit qu'il faut se restreindre dans telle chose, c'est une bonne chose de dire qu'est-ce qu'on peut faire d'autre à la place qui nous rende heureux. Et il y a tellement de choses qu'on peut faire qui nous rendent heureux et qui font qu'on ne sent pas la sobriété comme quelque chose de négatif, mais comme quelque chose de très positif, quelque chose qu'on avait oublié et que l'on retrouve avec beaucoup de bonheur. Voilà, c'est tout. Merci encore pour vos émissions. Au revoir.
Bonjour, c'est Léa de Strasbourg, de l'association Alter Alsace Énergie. Notre association prône depuis plus de 40 ans l'utilisation rationnelle de l'énergie, avec comme première étape la sobriété énergétique. Dans ce cadre, nous avons lancé un défi à destination des citoyens du Grand Est. Le défi FAE, Famille Éco-Engagée pour la Sobriété. Ce défi permet aux familles de déterminer leur consommation actuelle, de réaliser différents éco-gestes pour réduire leur consommation, et tout ça de façon très ludique. Je vous invite à rejoindre le défi FAE. À bientôt.
Bonjour la Terre au Carré, c'est Sophie de Lorient 56. Je souhaite vous informer d'un projet nuisible sur la commune de l'Armor, à côté de Lorient. Il s'agit de la construction d'une thalasso sur un terrain agricole proche du littoral, un bâtiment de 150 mètres de long et de 14 mètres de haut, pour 130 chambres d'hôtel 4 étoiles, 3 piscines chauffées avec pompage de l'eau de mer. C'est un projet d'un autre temps qu'il faut dénoncer. Il y a des associations et un collectif qui se battent contre ce projet. Rejoignez-les. Je vous invite à consulter le site du collectif Stop Thalasso l'Armor. On vous attend. Bonne journée, au revoir.
Bonjour, Xavier de Cateux. Je vous appelle de La Rochelle. Je suis le président du festival Terre et Lettres qui va se dérouler du 27 avril au 5 mai. Cette édition du 15e anniversaire est parrainée par Isabelle Sorinthe. Le samedi 27 avril, une journée de connexion à la nature avec une douzaine d'ateliers sensoriels dans une ferme, la ferme du Mont d'Or, à proximité de La Rochelle. Le jeudi 2 mai, la soirée d'ouverture dont l'invité sera Bart Abbas pour présenter son dernier film « Les chevaux voyageurs ». Enfin, une exploration des nouveaux imaginaires pour mieux habiter la Terre avec des rencontres avec une douzaine de romanciers, philosophes, mangaka. Tout le programme sur le site terre-et-lettres.org.
Et merci pour vos messages. Le répondeur de la Terre au Carré, 01 56 40 45 45. La scène se passe le 14 octobre 2022. Anna Hollande, 20 ans, et Phoebe Plummer, 21 ans, se faufilent le cœur battant dans les salles de la National Gallery à Londres. Elles appartiennent au mouvement Just Stop Oil. Arrivées devant les tournesols de Vincent Van Gogh, elles sortent des boîtes de soupe à la tomate qu'elles aspergent sur le plexiglas qui protège le tableau du peintre néerlandais, puis se collent les mains au mur. Le coup d'éclat des deux jeunes femmes, filmé par des complices, est immédiatement relayé sur les réseaux sociaux et se répand comme une traînée de poudre dans les médias du monde entier. La performance est présentée par ses autrices comme un acte de résistance. Il fait partie d'une série d'actions lancées justement par l'organisation pour réclamer l'arrêt de l'exploitation des hydrocarbures au Royaume-Uni que le gouvernement britannique de l'époque avait accéléré en pleine crise énergétique mondiale. Cet exemple illustre la désobéissance civile qui puise ses racines dans des mobilisations qui partagent le même objectif, à savoir la transformation de pratiques et la dénonciation d'injustices de façon non violente. À l'origine inspirée par des convictions religieuses ou philosophiques, les attitudes désobéissantes ont pris une dimension plus politique ces derniers temps. Voilà ce que nous raconte un ouvrage qui ne cesse d'être réactualisé et dont la dernière version vient de paraître. Son titre, La désobéissance civile, il est publié aux presses de Sciences Po. Et vous en êtes l'autrice, Sylvie Olitreau. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Livre publié avec votre confrère Graham Hayes, qui est maître de conférence à l'université Aston au Royaume-Uni. Vous êtes quant à vous sociologue, directrice de recherche en sciences politiques à l'École des hautes études en santé publique et à l'ISP de Nanterre. Vous êtes en duplex des studios de France Bleu Armorique à Rennes. Et on va donc revenir avec vous aux racines de la désobéissance civile depuis Henri David Thoreau aux États-Unis au 19e jusqu'à aujourd'hui, en passant par des épisodes marquants de l'histoire incarnés par des figures comme Rosa Parks Gandhi ou Martin Luther King. On se retrouve dans un instant, Sylvie Olitreau. On en discute avec les messages qui arrivent sur la page de l'émission, sur nos réseaux sociaux. Dites-nous ce que la désobéissance civile vous inspire. Camille Cronier, bonjour.
Bonjour Mathieu, bonjour tout le monde.
On passe au vert à 14h30.
Et les villes chinoises s'enfoncent littéralement. On appelle ce phénomène la subsidence et je vous explique exactement comment ça marche. Enfin, c'est pas moi qui vous explique, c'est des scientifiques que j'ai appelés.
Voilà pour le sommaire de cette émission réalisée par Valérie Ayestaraï, préparée par Lucie Sarfati avec Benjamin Wagon à la technique.
La Terre au carré. Mathieu Vidard sur France Inter.
Qu'est-ce qui a le plus de valeur, l'art ou la vie ? Êtes-vous plus préoccupé par la protection d'une peinture ou la protection de notre planète ?
Autour des tournesols de Van Gogh dont je vous parlais dans le sommaire, cette archive de l'INA de 2022, une histoire de la désobéissance civile aujourd'hui dans la Terre au carré avec vous, Sylvie Olitreau, sociologue. À partir de quand vous vous êtes intéressée à ce sujet ? Dans quel contexte exactement ?
C'est d'abord une rencontre, effectivement, avec mon collègue Wim Hayes, avec qui déjà j'avais des échanges sur les questions de mobilisation écologiste. Mais il est vrai que, j'irai au tournant des années 2000, l'un et l'autre, on a constaté la montée en puissance de la désobéissance civile. Ce qui voulait pas dire qu'auparavant, c'était pas une pratique au sein du mouvement, mais elle s'affirmait de plus en plus. Et l'un et l'autre aussi, on s'est retrouvés, dans une enquête commune sur les procès militants. Parce qu'on est rentré, je dirais pas à la désobéissance civile, au travers des procès militants. Donc ça a été ce moment-là qui a été important, parce qu'il y avait déjà des militants qui se retrouvaient en procès au nom de la désobéissance civile.
Et ce sont les outils de la sociologie politique qui vous ont permis de faire ce travail de recherche ?
Oui, tout à fait. L'un et l'autre, on est politiste d'abord. Enfin, on est sociologue, mais du politique. Alors, c'est vrai que c'est une entrée singulière parce qu'il y aurait d'autres ouvrages qui peuvent traiter de la désobéissance civile et qui relèveraient plutôt de philosophie, d'histoire des idées, voire de la légitimité de l'action, mais via, je dirais, des principes liés à la démocratie. Nous, on regarde, ce que font les militants, on va dire, comment ils se justifient et aussi comment aussi une manière, je dirais, de militer à transformé en partie aussi le mouvement écologiste, puisque ça a transformé aussi, ça a eu des effets sur le mouvement écologiste.
Un mouvement très plastique, on le verra, qui a beaucoup évolué et qui continue d'ailleurs d'évoluer beaucoup. Vous avez publié cet ouvrage pour la première fois en 2012 et donc vient de sortir la troisième édition réactualisée. Ça veut dire que justement, il y a pas mal d'évolutions au fil du temps autour de la désobéissance civile.
Oui, ça a nécessité une réécriture en partie, voire même, il y a eu des chapitres qui ont été aussi réécrits et écrits, tout simplement parce que, en particulier depuis les cinq dernières années, il y a des répressions qui apparaissent, qui sont assez inédites. Il y a aussi des modalités d'action qui apparaissent. Il y a une réflexion au sein du mouvement écologiste sur la question de la non-violence. Notamment.
Oui, on en reparlera.
On en reparlera. Et puis des profils militants nouveaux aussi. Il y a toute une génération qui apparaît, qui est plus celle, alors pour reprendre le contexte français, qui est plus celle de la Confédération paysanne, plus celle qu'on avait décrit il y a une dizaine d'années, et qui porte aussi leur propre manière, de créer de la désobéissance civile.
Qu'est-ce qu'il faut entendre d'ailleurs par désobéissance civile ? Est-ce qu'il y en a une sorte de définition sur laquelle tout le monde est à peu près d'accord ou pas ?
Il y a une définition, là, on en a plusieurs, mais c'est vrai qu'y compris les militants qui en plus s'entraînent à la désobéissance civile parce qu'il y a des pratiques et ils s'entraînent et il y a des journées de formation. Ils sont quand même assez d'accord sur le fait que ça soit des activités souvent illégales, mais qui se fassent de manière publique. Et avec le trait commun, en tout cas pour les écologistes, c'est la non-violence. Alors non-violence, on y reviendra, effectivement, c'est pas forcément non-violent. Mais en tout cas, eux, ils affirment une non-violence, c'est-à-dire surtout à l'égard des personnes, et qui distinguent de d'autres manières, de contester. Et clairement aussi, c'est pour faire advenir un changement, soit d'une loi, soit d'une position politique, soit d'une politique publique.
En tout cas, vous le dites, c'est quelque chose de public, donc il ne s'agit pas de lutte clandestine. C'est un activisme qui agit publiquement et qui, justement, ne cherche pas à se soustraire à la répression.
Ah ben non, au contraire, je dirais. Et ce que vous avez, enfin, le premier exemple que vous avez mentionné en introduction, effectivement, l'explique bien. Enfin, l'intérêt aussi dans cette dynamique est quand même d'attirer les médias, d'attirer l'opinion publique. Ouais. Alors après, là aussi, question, est-ce que ça a pas des effets contre-productifs ? Mais
on va
au
en
départ,
discuter,
c'est quand
ouais.
même, c'est ça, c'est d'être dans l'espace public et d'interpeller.
Alors, cet exemple, c'est celui donc des tournesols de Van Gogh, Sylvie Olitreau, avec cette séquence de la sauce tomate qui a fait beaucoup réagir. Ensuite, il y a eu la version française avec la Joconde. Est-ce que vous avez le sentiment que cette performance a fait réfléchir in fine après sa médiatisation ? Qu'est-ce que ça provoque au fond ?
Alors, d'abord, ce que ça provoque au sein des mouvements écologistes, parce que moi, c'est plutôt ce que j'ai regardé, et les mouvements environnementalistes, hein, parce qu'il y a aussi des mouvements environnementalistes du type pour la France FNE, hein, France Nature Environnement, c'est de se poser la question des limites de, je dirais, de la geste militante et de ces activistes qui, voilà, peuvent aussi heurter une certaine opinion publique, en tout cas, certains réseaux militants le craignent, et puis aussi parce que il y a eu, je dirais, des grands anciens de la désobéissance civile, que sont les ONG comme Greenpeace ou des réseaux militants comme pour la France toujours la Confédération paysanne, qui voient des nouveaux mouvements s'emparer de la pratique et avec une manière de scandalisation qui leur apparaît plus forte, en tout cas qui ne maîtrisent pas parce que qui les dépassent, ils sont à côté. Et ça les a, voilà, ça a permis aussi, du coup, de réfléchir à leur mode d'action. Mm-hmm. Mais il y a clairement eu cet effet, on va dire, disruptif au moment de l'apparition de ces nouveaux, de ce nouvelle
manière de faire. Mais ce que vous laissez entendre finalement, c'est que ça suscite aussi de la critique au sein même du mouvement écologiste, selon, par exemple, les générations.
Oui, alors il n'y a pas qu'un clivage générationnel parce que parfois il y a des personnes, je dirais, plus âgées qui peuvent soutenir aussi les nouveaux venus, mais il y a clairement, oui, il y avait une sorte, alors ça c'est notre livre avant remaniement, on va dire, il y avait une sorte de routine qui s'était instaurée. Alors une routine, ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas procès, qu'il n'y avait pas répression, etc. Mais il y avait des manières de faire qui étaient liées à, notamment, c'était sur les OGM, c'était sur d'autres dossiers, on va dire. Actuellement, ce qui a fait nouveauté aussi, c'est l'urgence climatique, qui a, d'une certaine manière, donné une impression d'urgence très forte, et qui a aussi eu un effet sur une génération. C'est-à-dire qu'il y a une génération qui se sent impactée et qui demande des réactions rapides, à la fois des pouvoirs publics, mais peut-être aussi en interpellant tous les mouvements, y compris écologistes, sur les manières de faire et sur les nouvelles manières de faire.
Ouais, sauf que, est-ce que le mouvement, il atteint sa cible, au fond ? Parce que là, on a vu un déluge d'insultes sur ce tableau de Van Gogh, qui, encore une fois, n'a pas été abîmé, puisqu'il était protégé par ce plexiglas, mais est-ce que le fait de beaucoup parler de cette action, on arrive quand même à capter le message ? Parce qu'on parle beaucoup de la destruction du tableau, plus que de la destruction de la nature elle-même, au fond.
Oui, c'est le paradoxe de cette affaire-là où on a plus parlé du geste, on a plus parlé de la violence ou de la non-violence que du message politique qui était éminemment politique puisque il parlait à la fois de justice environnementale et de justice sociale puisque derrière il y avait aussi la question de la justice sociale.
Ouais. Vous avez évoqué les OGM, on va écouter un extrait de 2003 avec José Bové, les faucheurs volontaires, parce que c'est un mouvement, en tout cas une action qui a beaucoup marqué et qui marque encore dans cette histoire de la désobéissance civile.
OGM, non, non et non, OGM, hors la loi et fier de l'être. En moins d'une heure, le petit champ de maïs génétiquement modifié n'est plus qu'un tapis vert. Militants anonymes et têtes d'affiche de la lutte anti-OGM assument le délit et exhibent leur trophée.
Aujourd'hui, c'est notre devoir de citoyen d'agir dans cette action de désobéissance civile. J'assume la totalité de l'acte que j'ai commis, c'est-à-dire du pied de maïs que j'ai arraché.
Publiquement, on est venu détruire la nourriture qui risque de nous tuer demain, quoi.
Voilà, 2003, Sylvie Olitreau, ça c'est probablement un des mouvements les plus connus en France.
Oui, tout à fait. Enfin, en tout cas, il en a même inspiré un certain nombre voilà, qui ont décliné aussi des manières de faire de la désobéissance civile, parce qu'après il y a eu les déboulonneurs, il y a eu aussi sur les questions des affichages, etc., des tas d'actions de ce type. Mais c'est vrai que la Confédération paysanne, alors il faut le rappeler aussi, à un moment où il y avait vraiment eu des actions communes avec l'ONG Greenpeace, a pu mettre, je dirais, sur l'agenda politique cette question, a pu aussi donner cette visibilité, cette médiatisation, qui fait que voilà, c'est reconnu comme de la désobéissance civile. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y avait pas d'autres formes de désobéissance civile, mais ça a été vraiment, je dirais, une entreprise de désobéissance civile, avec aussi, comme je l'ai dit, des stages, des voilà, c'était organisé. Hein. À chaque
préparé,
fois, c'est pas voilà, c'est pas fait, je dirais, d'une manière inopiné. Et il faut ajouter que José Bové a aussi d'une certaine manière théorisé cette pratique, alors pas en parlant de désobéissance civile, mais de désobéissance civique. Mais voilà, c'était une petite différence qu'il assumait tout à fait, puisqu'il l'affirmait, et ça c'est un point aussi intéressant et important dans la désobéissance civile, le caractère citoyen de cette résistance, parce qu'il parle parfois aussi de résistance.
Allez, on se retrouve dans un instant pour voir ce qui caractérise aussi cette désobéissance civile aujourd'hui et comment elle évolue. C'est le sujet de ce livre qui paraît aux presses de Sciences Po. C'était The Kills sur France Inter.
La Terre au carré sur France Inter.
C'est aux citoyens maintenant de créer la différence et d'agir. Et on pense qu'il faut agir de manière à la fois non violente et déterminée.
Sit-in, blocage, fauchage ou encore aujourd'hui décrochage. Pour apprendre ces techniques de désobéissance civile, des stages sont organisés.
C'est pour montrer qu'on peut empêcher, et ce, pacifiquement.
Voilà, c'est un document de l'INA en 2019 autour des décrocheurs. On en parle cet après-midi dans le cadre de ce dossier sur la désobéissance civile avec vous, Sylvie Olitron, en duplex de Rennes. On voit d'ailleurs dans votre ouvrage à quel point il y a un éventail de mouvements et d'actions. Il y a une vraie diversité, en tout cas aujourd'hui. Chacun a un peu sa spécificité ou pas. Il faut arriver à se distinguer. Comment vous l'analysez, vous, là ?
Enfin, ce qui est sûr, c'est qu'il y a une sorte de... Oui, alors, c'est, je dirais pas forcément penser de cette manière-là, mais chacun a ses petites... voilà, ses manières de faire, ses registres d'action, notamment, bah, voilà, Just Stop Oil ou Dernière Rénovation, ils avaient leur style, on va dire, qui ressemblait beaucoup, d'ailleurs, en termes de scandalisation à ce qu'on avait vu, il le disait d'ailleurs très clairement, du côté britannique, il s'inspirait des suffragettes.
Ouais.
C'était donc un mouvement social qu'on avait un peu, pas oublié, mais sous-estimé, et effectivement, qui avait aussi utilisé la désobéissance civile.
Sur le droit de vote des femmes.
Exactement. Hein. Donc avec l'idée quand même assez radicale, parce que voilà, il faut justement créer un événement, scandaliser, parce que voilà, il n'y a pas d'autre issue selon elle. D'ailleurs, c'était souvent des militantes, il faut quand même le souligner. Et puis d'autres qui sont comme Greenpeace, je dirais dans des activismes aussi qui sont liés souvent aux agendas internationaux. Et en particulier lorsqu'il y a des campagnes sur les forêts, sur les campagnes, voilà, en ce moment c'est le climat, mais il y a aussi d'autres sujets, on va dire, qui peuvent émerger. Et là, c'est souvent, je dirais, l'activisme et penser aussi dans ces campagnes internationales de sensibilisation et dans ces campagnes aussi d'alerte, mais qui sont très spécifiques aux agendas internationaux. Alors que là, pour le dire clairement, ce qu'on a vu dans les années 2022, c'était un moment où c'était très fortement sur le climat, sur les questions de justice sociale et justice environnementale. Et comme je le disais tout à l'heure en introduction, portée sans doute par une nouvelle génération qui ont aussi ces préoccupations et qui sont moins dans les questionnements d'agenda internationaux, on va dire. Enfin, qui ne sont pas scandés de la même manière.
Et une nouvelle génération qui n'est pas forcément jeune, hein, puisque si on prend l'histoire de la Joconde, de la soupe balancée sur la vitre, il y a dans les deux activistes qui étaient pour Riposte Alimentaire, l'ancienne Dernière Rénovation, il y avait une dame de plus de 60 ans. Il y a des messages sur franceinter.fr. Philippe nous écrit: je pense être très sensibilisé aux problématiques climatiques et environnementales, mais je ne supporte pas ces manifestations de désobéissance civile qui relèvent pour moi de l'infantilisme et de l'irresponsabilité. Et puis je vous lis un autre message de Jacques qui écrit, et vous allez répondre, Sylvie Olitreau: table ouverte pour la sociologue qui explique la désobéissance civile, et personne en face pour rappeler que nous sommes dans un état de droit.
Alors justement, est-ce que ces mouvements, ils s'attaquent à l'état de droit? Est-ce que c'est un des objectifs ou pas?
Non, c'est pas l'objectif du tout, puisque clairement, il se situe dans l'état de droit. Alors évidemment, comme on parle surtout de, comme je l'ai dit, de ce qui est disruptif, scandale, et on parle très peu de ce qui est dit, et aussi pour les avoir vus en procès. D'abord, ils vont en procès, ce qui est un peu la différence avec d'autres formes de politique. Je dirais d'expression politique, où on pourrait éviter justement d'aller au procès, rentrer en clandestinité. Donc l'idée, c'est d'être des citoyens actifs. Et que ce soit d'ailleurs Martin Luther King, Gandhi, enfin là c'est une ligne directrice forte, c'est d'assumer ses actes, d'aller jusqu'au bout et d'interpeller l'état de droit. Alors après, on discute, évidemment, mais au nom de leur conception de l'intérêt général, et pour les ces militants, bah, l'intérêt général, c'est de défendre, ou en tout cas d'accélérer les mesures en faveur du climat, enfin en tout cas en faveur des mesures d'accompagnement liées au réchauffement climatique. Et pour eux, il est tout à fait légitime, voilà, je dirais d'actionner tout ce qu'il faut pour rappeler aux États leurs engagements internationaux, voire leurs engagements nationaux. Donc, généralement, enfin, en tout cas, c'est l'état de droit. Et l'illégalité, c'est surtout les illégalités. Moi, je dirais quand même, alors, sur l'échelle de Richter des illégalités, ça reste encore maîtrisé, même quand on parle, j'ai aussi eu l'occasion de parler, je dirais, à l'autre côté, c'est-à-dire les avocats, les juges, ou encore parfois les forces de l'ordre. Ils admettent que, d'abord, c'est des troubles à l'ordre public, mais c'est pas des troubles extrêmes à l'ordre public, comme pourraient l'être, voilà, d'autres activismes, on dirait. Donc voilà, pour répondre à l'une des questions. Et puis
sur l'infantilisme, l'infantilisme,
je pense que là c'est un jugement de valeur. Moi, je suis sociologue. Moi, je dirais que c'est pas à moi de juger si c'est infantile ou non. En tout cas, ça motive un certain nombre de militants. Alors jeunes, donc infantilisme, ça renvoie à l'image de la jeunesse. Alors quand je dis jeunes, effectivement, il peut y avoir des plus âgés, mais des personnes en tout cas qui veulent prendre l'action. Ce que j'ai entendu de ces militants, c'est que pour certains, y compris âgés, ils sont parfois mus par une forme d'éco-anxiété et ils veulent en tout cas prendre l'action et faire mesurer, je dirais, soit à l'opinion publique et aux États, que voilà, ils sont face à voilà à quelque chose qui pense comme une catastrophe et qu'il est temps de réagir.
Autre message d'un auditeur anonyme qui nous écrit « La désobéissance civile passe par le sabotage et la destruction des outils servant eux-mêmes à détruire la biosphère, en opposition au sabotage des services publics orchestrés par le libéralisme, je lis toujours. Les éco-terroristes ne sont pas celles et ceux qu'on croit. Sylvie Olitro, souvent il y a d'ailleurs ce débat entre la légalité et la légitimité, justement. Qu'est-ce que vous avez à dire là-dessus ?
Oui, tout à fait. Alors, parfois, la désobéissance civile, c'est aussi, alors ça, il faut bien quand même le reconnaître, c'est une manière aussi de donner un récit à des tas d'activités, on va dire, militantes, et qui vont avec des curseurs très différents, puisque ça va de l'occupation pacifique, je dirais, d'un périphérique ou d'une place, voire à quelquefois l'irruption dans des espaces. Par exemple, j'ai vu ça en Suisse, c'est des éruptions dans les banques, jusqu'à effectivement en ce moment, je dis en ce moment parce que ça arrive assez fort sur l'agenda, on va dire, de la désobéissance civile, c'est le recours au sabotage. Mais par derrière, il y a toujours un récit qui légitime. Et là, on avait une illustration assez forte, d'ailleurs, par ce témoignage d'un récit qui légitime les actes de désobéissance civile et de désarmement, puisqu'on ne parle pas de sabotage, hein, on parle de désarmement lorsque l'on est en désobéissance civile. Donc, il y a effectivement, je dirais, la légitimité à rentrer dans l'illégalisme, mais qui était là dès l'origine, hein, puisque Martin Luther King, ils ont fait des... Voilà, ils avaient aussi des activités illégales, puisque clairement, même Rosa Parks, en refusant de se lever un jour parce qu'elle était fatiguée, elle était dans l'illégalité, puisque la légalité, c'était une légalité à l'époque ségrégationniste. Donc, c'est souvent le point, voilà, c'est le point peut-être souvent de discussion au sein même du mouvement écologiste, voire même dans la société, c'est jusqu'à quel point une société dite démocratique accepte des illégalismes.
Qui invente le mot d'ailleurs, désobéissance civile ? Qui le premier dans l'histoire le propose ?
Alors, ce qui a été proposé vraiment, c'est d'abord une traduction, en tout cas ça vient des États-Unis, David Soreau, mais même pas David Soreau lui-même, parce qu'il avait écrit d'abord le terme de résistance civile, mais ouais. J'ai pas le fin de mot de l'histoire, mais c'est lors de l'édition de ce texte que ça s'est transformé en désobéissance civile. Donc c'est vraiment aussi, il faut aussi reprendre Soreau, parce que Soreau c'est aussi un philosophe, c'était aussi un auteur, un écrivain.
C'est Walden.
Il était démocrate, puisque pour lui, la démocratie, justement, américaine n'était pas allée jusqu'au bout, c'est-à-dire jusqu'à la fin de l'esclavage, jusqu'à l'égalité homme-femme, jusqu'à la reconnaissance des droits des Amérindiens. Et pour lui, en gros, la démocratie américaine était restée juste à l'état, je dirais, justement, alors là, on peut dire infantile, parce qu'il n'était pas allé jusqu'au bout du projet démocratique. Donc, ce sont quand même des finalement, je dirais, la plupart du temps, à des obéissances civiles est plutôt pensée par des auteurs qui s'inscrivent dans le récit démocratique, voire libéral, c'est-à-dire du contrat social entre les individus et son État. Et jusqu'à quel point, un individu doit obéir ou non à son État ou peut rentrer en résistance à l'égard de cet État.
Sylvie Olitro, on revient vers vous dans un instant et on a beaucoup de messages à vous soumettre. C'est un sujet qui fait réagir, la désobéissance civile. Vous nous rejoignez sur franceinter.fr.
France Inter, la Terre au carré.
14h quasiment 32, on passe au vert, Camille Cronier.
Et j'ai découvert un mot cette semaine, la subsidence. Est-ce que vous savez ce que
Eh
c'est ?
Eh bien non.
Eh bien voilà la réponse.
Ce drôle de mot veut simplement dire la perte d'élévation d'une terre. C'est la terre qui s'enfonce.
Et ça vient du latin subsidere qui veut dire s'enfoncer. Définition donnée par Jo Graal, elle est chargée de recherche CNRS au laboratoire Littoral, Environnement et Société de l'Université de La Rochelle et spécialiste du sujet.
En fait, généralement, quand on parle de subsidence, on prend comme référence, comme repère, la remontée actuelle globale des eaux et on essaie de savoir si on s'enfonce plus que les eaux montent. Donc la remontée moyenne des eaux, aujourd'hui, c'est de l'ordre de grandeur de 30 cm pour 100 ans.
certaines zones s'enfoncent d'elles donc plus que ça, 30 cm pour 100 ans? La réponse est oui. On a beaucoup parlé de Jakarta, la capitale indonésienne, qui déménage carrément ses institutions tellement elles coulent. 10 fois plus que le repère, donc 3 mètres, elle, pour 100 ans, 3 mètres. Et une étude parue la semaine dernière dans la revue Science montre aussi que la moitié des 80 grandes villes chinoises s'enfoncent. C'est le professeur anglais Robert Nichols qui la signe, cette étude. Il est directeur du Tyndall Center for Climate Change Research, quel accent, à l'université East Anglia de Norwich.
Certaines villes en Chine s'enfoncent de plus d'un centimètre par an. Et c'est un gros changement, surtout quand ça s'accumule avec le temps. Et on voit des changements très rapides dans une période très courte. Donc je dirais que ce qu'on voit en Chine, et plus largement en Asie, est assez inédit dans l'histoire humaine. Et c'est vraiment lié à l'augmentation des populations urbaines.
Pourquoi ? Parce que on pompe dans les nappes phréatiques et on draine également. Beaucoup de villes se sont construites et ont grossi sur des terres qui étaient marécageuses. Et on draine ces marchés, ces marais, donc ça enlève encore de l'eau. L'impact des mines de charbon est également pointé du doigt, donc les activités humaines. Mais en fait, la subsidence, qui est très marquée également en Amérique du Nord, à Vancouver ou la Nouvelle-Orléans par exemple, et puis en Europe, à Venise ou aux Pays-Bas, évidemment la tour de Pise que tout le monde connaît, mais même le delta du Rhône est surveillé de près. La subsidence, donc, peut s'expliquer par plein de choses. C'est un sujet complexe, rappelle Jo Graal.
C'est très dur de déterminer quel processus est responsable selon les observations. Mais il y a quand même des grandes catégories de processus qui peuvent être réversibles, irréversibles, instantanés, non instantanés, intermittents. Il y a tout un spectre.
Et les pompages d'eau, qui viennent déstabiliser les sols, mais aussi, toujours dans la catégorie activité humaine, le poids, carrément, le poids des bâtiments et des infrastructures, ou encore leur construction même.
Quand on va construire des villes, on va rajouter une masse, mais on va éroder des montagnes pour prendre ces bouts de cailloux. Donc en fait, on contribue à ces grandes redistributions de surface à notre échelle sur un processus qui existe naturellement sur la Terre.
Et dans les autres processus où nous n'intervenons pas, il y a ce qu'on appelle l'effet du rebond post-glaciaire.
En gros, pour résumer, la Terre actuelle et depuis au moins 100 000 ans, on a des calottes glaciaires au pôle qui vont fondre. Et donc ça fait une perte de masse au pôle. Cette eau, elle disparaît pas, elle va dans l'océan. Donc l'océan devient plus lourd. Et donc ce qu'on voit, c'est que proche des pôles, on diminue le poids sur la tête de la Terre. Donc on a tendance à monter, donc pas subsider. Alors qu'au niveau de l'équateur, où les océans sont plus importants, ils ont une plus grande masse et donc l'équateur a tendance à un peu s'enfoncer.
Mais attention à ne pas confondre avec la montée des eaux, dont on parle beaucoup à cause du réchauffement climatique. Là, en fait, précise Robert Nichols, c'est pas directement lié au changement climatique, ça l'exacerbe parce que dans les zones côtières en particulier, si le niveau de l'eau monte et qu'en même temps la Terre s'enfonce, alors les deux phénomènes se cumulent et se renforcent l'un l'autre, avec des risques de submersion ou de salinisation des cours d'eau. Que faire alors contre ce phénomène qui n'est pas visible à l'œil nu, bien sûr, mais qui peut être signalé au-delà des mesures diverses et variées par certains indices, comme un bâtiment qui commence à se fissurer ou des inondations dans certains endroits très localisés, épargnés jusque-là.
Vous pouvez essayer d'éliminer les sources de la subsidence. Par exemple, certaines zones de Tokyo se sont enfoncées jusqu'à 5 mètres au XXe siècle. C'est arrivé, c'est un fait. Mais ces zones ne s'enfoncent plus aujourd'hui parce qu'ils ont arrêté de pomper les nappes phréatiques. Ils ont trouvé des approvisionnements d'eau alternatifs et ont banni les pompages dans le sol. Donc, c'est une réponse. Sinon, ce qui reste, c'est s'adapter. Parce qu'en reconnaissant la réalité de la subsidence, on part sur de meilleures bases pour y faire face plutôt que juste réagir en étant surpris. Là, on sait ce qui va se passer. On peut donc anticiper et faire des plans.
Voilà, d'autant que 19% de la population mondiale, bien 19%, un terrien sur 5, pourrait être exposé à la subsidence.
Incroyable. Merci beaucoup Camille Cronier. La subsidence, donc, c'est à réécouter tranquillement sur franceinter.fr à la page de la Terre au carré. Dans un instant, nous revenons à notre dossier sur la désobéissance civile.
Tu me connais, mes faiblesses, mes torts, j'aime pas les avouer. Devant toi ou les autres, c'est mort, tu m'as vu pomper. Depuis ce jour béni, on s'est rencontrés. Si Moi, toi, toujours à quoi même quand amen. J'suis peur, je reste fidèle à moi-même. Jalouse, ce soir, touche à fond. J'suis jalouse, j'en ai rien à foutre. J'veux toucher à tout. Tout est tour de magie. Ceux qui te font la cour vont aussi subir. Ils vont finir à la vidéo. Vidéo, y'a des mouvements illégaux. Illégaux, ça mouille à la météo. Météo, des comportements illégaux. Illégaux, Kadem, ma belle. Tu m'entends toujours à quoi même. Kadem, amen. J'suis peur, je reste fidèle à moi-même. J'en touche à fond. Je suis jalouse, jalouse. J'en ai rien à foutre. Je veux toucher à tout.
Jaloux, c'était Lala S sur France Inter.
La Terre au carré, le magazine Science et Environnement. Mathieu Vidard et Camille Cronier. Sur France Inter.
Mais si le monde de la Terre, il ramène sur le devant de la scène un enjeu majeur pour demain, qui est l'eau. L'eau, ça va être décisif parce que la sécheresse arrive, on le sait, elle devient constante. Et que l'eau doit rester un bien commun.
Pour faire avancer cette cause, cette radicalité, vous la comprenez ?
Je la comprends, mais je la défends et je la promeux même. C'est-à-dire qu'on est à un moment donné où l'accélération, on le voit, du réchauffement climatique est massive. Et que donc, il faut, si le gouvernement n'est plus capable, et n'a jamais été capable en l'occurrence, d'entendre ses arguments écologiques, il faut passer à un niveau supérieur d'action.
L'écrivain Alain Damasio, c'était en juin 2023, dans la matinale de France Inter, au micro de Léa Salamé. On parle de désobéissance civile. Avec vous, Sylvie Olitron Duplex de Rennes, vous êtes sociologue et donc vous publiez cet ouvrage aux presses de Sciences Po. La montée en puissance, on va dire, de la radicalité, la question de la non-violence aujourd'hui, qui est quand même un des piliers de cette désobéissance civile, est-ce que c'est très discuté actuellement ?
Oui, tout à fait. C'est discuté de deux manières. C'est discuté, je dirais, au sens même déjà de voilà la non-violence. Qu'est-ce la non-violence ? Comment se comporter ? Là, quand vous parlez de soulèvement de la terre, bah derrière, il y a quand même Sainte-Soline à un moment. C'est-à-dire face à la répression, face à des modes d'interaction avec les forces de l'ordre qui se sont transformées et qui ont aussi transformé le jeu, du coup. Entre les militants qui avaient des manières de faire et des manières d'être, je dirais, appréhendés et qui se transforment. Donc ça, la question de la violence et de la violence d'État aussi interroge. Et puis au sein même là du mouvement, effectivement, il y en a un certain nombre de militants, de mouvements comme qui représentaient Soulèvement de la Terre, qui s'interrogent même sur l'idée d'aller un peu plus loin, parce que quand les mouvements vont sur le terrain justement de l'état de droit, c'est-à-dire des recours en droit auprès des tribunaux administratifs, etc., pour arrêter les projets qui paraissent dénier tout, je dirais, le droit de l'environnement. eh ben ils sont pas entendus, ou ils, voilà, ou non seulement ils sont pas entendus, mais quelquefois voilà les aménagements se font quand même. Et donc il y a un sentiment d'injustice assez fort au sein du mouvement,
qui pourrait donner envie d'aller plus loin, quoi.
Bah oui, qui peuvent donner envie d'aller sur ce qu'on appellerait en droit du sabotage, parce que bon, on a beau dire c'est du désarmement quand on fait de la désobéissance civile, il n'empêche que c'est quand même du, voilà, c'est souvent des actes dits de sabotage. Et ça traverse aussi le mouvement d'une manière un peu plus forte, disons, depuis quelques années, enfin les deux dernières années.
Et illustration d'ailleurs de ce sentiment d'injustice, sur franceinter.fr, Toto nous écrit: dans un état de droit, il faudrait que la justice fasse respecter le droit, donc les lois aux premiers concernés, les élus. Est-ce que vous voulez faire un commentaire là-dessus?
Le commentaire, c'est que ça illustre ce que j'entends très souvent et ce que je vois aussi, enfin de manière un peu plus factuelle, lorsque là, c'est des juristes en droit de l'environnement qui l'observent, qu'un certain nombre de normes environnementales qui devraient avoir un effet ne sont pas, enfin soit sont contournées, soit oubliées, soit contestées. Le fait aussi, alors ça, c'est un point qui est pas non plus dans le livre, mais j'aimerais bien l'ajouter parce que c'est relativement récent, c'est qu'actuellement aussi, les militants sont de plus en plus poursuivis, notamment par des firmes internationales, etc., pour des faits, et des faits qui ne sont pas forcément de désobéissance civile. C'est-à-dire qu'il y a une guerre, moi j'appelle ça une guérilla juridique qui s'entame, avec aussi, là du coup, un sentiment d'injustice, puisque les défenseurs de l'environnement se retrouvent parfois à devoir se battre, et ils se sentent un peu seuls.
Et ça prend beaucoup de temps.
Face à des groupes. Voilà,
ça prend du temps, de l'énergie, évidemment.
Tout à fait.
Cette stratégie de non-violence là, qui est assez efficace pour gagner le soutien d'une partie de l'opinion publique, voire des médias, est-ce que elle est véritablement non-violente, ou est-ce que vous avez quand même observé des choses qui pouvaient s'apparenter à de la violence?
Ah, disons que en termes, alors là, ça dépend quel est toujours le point de vue. Alors si on regarde le code, on va dire même le code pénal, et bien clairement, l'idée c'est de ne pas entrer en violence et dans des interactions violentes, mais on peut pas nier qu'au fur et à mesure, et comme je l'ai dit aussi dans les interactions, notamment avec les forces de l'ordre, il peut y avoir d'abord des dérapages parce que voilà, on envoie des projectiles, on va dire, à l'égard des forces de l'ordre. Or, c'était pas du tout la grammaire de Greenpeace, par exemple, ou d'autres ONG. Et ça, maintenant, on voit ça apparaître. Et c'est dans les dynamiques souvent de manifestations ou d'interactions. On voit aussi ce qui se transforme. Mais là, c'est lié aussi, et c'est très récent avec les mouvements sociaux depuis à peu près 18 mois, où les militants prennent de plus en plus de précautions. Avant, on disait que bon, si on est un bon désobéissant, on est visage découvert. Bah, non, maintenant, on se cagoule, on se protège, mais aussi pour des questions, alors, ce que j'entends, hein, après, à discuter aussi, parce qu'ils se sentent aussi sous surveillance policière, et que, voilà, ça les inquiète. Donc, il y a aussi maintenant des stratégies, je dirais, peut-être de clandestinité qui se mettent en neuve ou en action, qui n'étaient pas forcément celles de la désobéissance civile qu'on connaissait jusqu'alors.
Autre question, enfin il y a même un débat qui est en train de se mettre en place sur franceinter.fr. Bertrand nous écrit: je suis outré que des personnes attaquent une œuvre d'art comme dernièrement à Lyon sur un tableau de Monet. On ne met pas en opposition la culture et la cause écologique. Attaquer la culture, c'est attaquer l'intelligence. Et Gilles presque lui répond sans le savoir, en disant qu'il faut rappeler qu'on commet un abus de langage quand on dit que des éco-activistes ont jeté de la soupe sur une toile. Évidemment, les peintures sont protégées par une vitre blindée, donc le geste est purement symbolique, hein, puisque la toile n'est pas abîmée à l'arrivée et n'entraîne pas de dommages pour les chefs-d'œuvre ciblés. Tout à l'heure, vous parliez de l'impact médiatique et symbolique qui recherchent tous ces activistes. Il faut vraiment ça passe pas encore. Les gens n'ont pas encore compris ça, si on prend l'exemple de Bertrand.
Oui, effectivement. Alors c'est peut-être ça qui montre la limite, je dirais, de l'action. Peut-être nous on la nomme en sciences politiques la scandalisation, c'est-à-dire faire en sorte que on scandalise. Ouais. Donc scandaliser, évidemment, ça heurte les sensibilités, et peut-être que le choix de l'œuvre d'art, moi, pour le dire clairement moi-même, quand ça s'est produit, ça m'a particulièrement étonnée, parce que clairement, généralement, les écologistes, ils utilisaient ou ils le faisaient par rapport le fauchage volontaire, par exemple, c'était lié à une activité directe, ou c'était pas éloigné, je dirais, de la cause écologique au sens classique. Là, l'œuvre d'art est un vecteur, en fait. Un vecteur parce que, bon, c'est symbolique, parce que ça permet voilà, d'avoir un gros écho médiatique et mondialisé, parce que c'est toujours des œuvres d'art qui ont souvent une notoriété internationale, on va dire, pour le résumer. Ils choisissent pas n'importe quelle œuvre d'art. Et ça a aussi pour effet, bah, peut-être, oui, de brouiller le message, parce que quand on est écologiste, on est renvoyé à l'idée, alors je dirais à une idée de nature assez large, et pas à l'idée de culture, et on voit pas trop le lien. À mon avis, c'est moins l'idée de la culture elle-même que peut-être aussi du caractère élitiste de la culture qui a été dénoncé, mais bon, comme vous voyez, c'est un effort intellectuel fort. Or, pour faire passer un message, malheureusement, parfois, il faut être simple. Et là, c'est peut-être trop compliqué, on va dire, pour l'opinion publique, de comprendre que, voilà, c'est juste un vecteur de scandalisation et pas forcément direct.
Et au chapitre impopularité encore, il y a d'autres actions qui font beaucoup parler. Alors là, c'est pas sur la gymnastique intellectuelle. C'est par exemple quand, dernière rénovation, donc à l'époque, bloquer des périphériques, bloquer des autoroutes. Les gens comprennent pas, les automobilistes, en l'occurrence, est-ce que ça, pareil, c'est des choses assumées, mais qui parfois ont du mal à passer dans l'opinion publique, quoi.
Alors, bah, tout à fait. Non seulement, en tout cas, surtout Extinction Rebellion en Grande-Bretagne ont bien compris que c'était contre-productif, parce qu'ils avaient fait à peu près la même chose, mais dans un métro londonien aux heures de pointe. Ils ont failli clairement se faire lyncher. Et depuis, Extinction Rebellion a revu, je dirais, sa copie. Et ça fait partie, ça fait peut-être partie des limites. C'est-à-dire que, bon, on peut très bien, quand on est écologiste, dénoncer des modes de, le fait d'être un automobiliste. Mais on doit se rappeler que quand même, on est dans un contexte social où, bah, évidemment, beaucoup d'individus utilisent leur voiture et sont obligés. Ah, donc, c'est vrai que, voilà, il y a une tension entre opinion publique, société et puis ce type d'action.
Ouais, Sylvio Litro, parce qu'il nous reste assez peu de temps, donc on va essayer de faire des réponses un petit peu plus courtes. Est-ce qu'ils risquent beaucoup, au fond, les militants à mener ces actions? Ça peut coûter très cher, la désobéissance civile. Il y a beaucoup de risques pour ceux qui l'utilisent?
Oui, il y a un certain nombre de risques. D'abord, peine d'amende, parfois quand même peine de prison. Alors, en France, plus en sursis, mais en Grande-Bretagne, il y a des vraies peines de prison, si j'ose dire. Donc, oui. C'est un militantisme de longue haleine. C'est-à-dire que quand on rentre en désobéissance civile et qu'on accepte d'être arrêté, c'est des procès, c'est un accompagnement de ces procès. Donc ça peut durer plusieurs mois, voire quelques années.
Mais vous dites bien que c'est assumé, en tout cas. Hein. C'est fait assumé. En toute connaissance de cause. Hein.
Tout à fait.
Et justement, Nathalie nous écrit, quand et comment s'apercevoir de la dérive autoritaire de l'État sur des causes qui défendent le bien commun? Est-ce que cette répression en France et dans plein d'autres pays, il y a aussi des exemples en Australie, évidemment en Grande-Bretagne. Est-ce qu'elle peut finalement décourager, vous pensez, les activistes et à terme la désobéissance civile pourrait disparaître?
Disparaître, je pense pas, mais ce qui est sûr, c'est que la répression transforme les modes d'action, fait... Peut-être c'est ça le danger, on va dire, c'est la radicalisation des plus radicaux. C'est-à-dire qu'en réalité, alors soit des personnes deviennent radicales, soit elles avaient déjà cette tendance-là, on va dire, et pourraient aller sur du sabotage ou sur des activités un peu plus clandestines. Et c'est pourquoi je reviens à la question, dans une démocratie, quel est le curseur entre répression et là aussi. Clairement, il faut que l'État prenne conscience qu'il y a quand même une demande sociale et qu'il faut peut-être la traiter d'une autre manière.
Il vous semble que cette frontière n'a pas encore été franchie, celle de la radicalisation extrême, si je peux emprunter ce pléonasme?
Pour l'instant, pas vraiment, sauf peut-être si il y a eu des arrestations, très clairement, il y a à peu près 2-3 semaines, à la suite de certains nombre de militants qui sont entrés dans l'usine Lafarge Et on voilà, ça a entraîné un certain nombre de dégradations, certes peut-être mineures, mais qui ont quand même qui ont entraîné quand même des arrestations. Donc on voit quand même se profiler, oui, sporadiquement, c'est cet activisme. On a vu aussi récemment sur les autoroutes, enfin le mouvement des écureuils, on va dire, le mouvement des écureuils
sur la 69,
reste voilà 69, mais sporadiquement autour, il y a un certain nombre de groupes qui commencent à se radicaliser, enfin au sens en tout cas écologiste. Mais moi qui suis aussi je dirais intéressée par les questions de radicalisation, on est quand même encore très loin et on n'a pas du tout les mêmes profils, on va dire, que les entrées en radicalisation lorsque c'est des radicalismes de type politique, enfin politique à l'extrême droite, parce qu'on l'oublie souvent, et aussi djihadistes.
Allez Brigitte Fontaine, si tu lis trop, on se retrouve dans un instant.
C'est très bien pour moi.
Juste après Brigitte Fontaine, il y avait quand même une raison d'en parler, et c'est Pipo sur France Inter.
L'amour, 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 toujours le vieux discours. Soit divin, soit humain, idem le baratin. Jusque dans les WC, j'en peux plus par pitié. Faudrait changer de disque, entreprise à haut risque. Les curés en chaleur, les idoles en pleurs. Les mémés les plus louches n'ont que ça à la bouche. À de grâce, arrêtez de vous badigeonner. De cette pub idiote, j'en ai plein la culotte. L'amour, c'est du pipeau. C'est bon pour les gogos. L'amour, c'est du pipeau. C'est bon pour les gogos. Barre de dégoulinant, scribouillard pleurnichant. Délicat militaire, épargné nouveau glaire. Vénus au statue creuse, mais la dent conveilleuse. Va te faire voir chez les Grecs, les anthropopithèques. L'amour, 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 toujours le vieux discours. Soit divin, soit humain, idem le baratin. Vénus au statue creuse, mais la dent corveilleuse. Va te faire voir chez les Grecs, les anthropopithèques. L'amour, c'est du pipeau. C'est bon pour les gogos. L'amour, c'est du pipeau. C'est bon pour les gogos.
Et c'était Brigitte Fontaine sur France Inter. Sylvia Olitreau avec nous encore pendant quelques petites minutes depuis les studios de France Bleu Armorique à Rennes. Et encore quelques questions sur la désobéissance civile.
Mais j'en ai une qui s'adresse presque à vous, Mathieu. C'est Gilbert vrai. Demande si des activistes non violents entraient à Radio France et perturbaient vos émissions, que diriez-vous? Alors on ferait quoi, nous?
C'est compliqué comme situation. On pourrait peut-être les entendre déjà, laisser s'exprimer, savoir ce qu'ils veulent exactement.
Sylvie Olitreau, est-ce qu'il y a, à chaque fois on parle de deux poids, deux mesures de la part du gouvernement, mais est-ce qu'il y aurait des lieux plus légitimes pour, on parlait tout à l'heure des musées, mais pour être activiste et désobéissant civil ou pas?
Ah, c'est un peu difficile de répondre parce que, à mon avis, si on veut que ça soit pas légitime, bah ça serait légitime à peu près dans n'importe quel espace. Mais c'est vrai que les écologistes sont plutôt attendus sur les en occupation de type ZAD, sont plus vus dans les manifestations près d'un aménagement. Lorsqu'ils s'exportent sur d'autres lieux, ça paraît un peu moins légitime. Mais ce qui ne veut pas dire que qu'il faut pas le faire au sens où ils justement, ils scandalisent plus, ils médiatisent plus. Et je rappelle aussi, il y avait un autre point qu'on a oublié, c'est que bien souvent, ce qu'on entend parmi les militants, c'est que ils vont sur la scandalisation parce que lorsque c'est des rapports du GIEC, ils sont pas entendus, en tout cas, on n'entend pas. L'idée aussi, c'est qui est derrière, c'est on montre, un peu plus vers la scandalisation parce que on n'est pas entendu lorsque
on manifeste quand on produit
d'autres formes d'activisme.
Sylvie Littrow, dans un chapitre consacré à l'enjeu démocratique, vous vous demandez si la désobéissance civile n'entre pas dans un registre de résistance. Vous en avez parlé un tout petit peu tout à l'heure. Ce serait ça dont il s'agirait maintenant?
En tout cas, c'est ce que j'entends aussi parmi les militants, ce qui d'ailleurs interroge ou voire même peut inquiéter, alors non pas la sociologue mais aussi la citoyenne, c'est-à-dire si des citoyens commencent à parler de résistance, on change un peu de registre. Ça veut dire que là, pour le coup, jusqu'à maintenant, alors on revient à l'idée de l'état de droit, on pensait que on pouvait interpeller l'état de droit et on pouvait faire bouger, on va dire, les choses. Ouais. Et là, on rentre en résistance. Donc ça veut dire qu'on on interroge l'état de droit, on peut même se retirer, on se mettre à côté. Et donc, ça transforme aussi ces modalités de désobéissance civile.
Allez, très 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 vite, parce qu'il nous reste peu de
temps. Coquelicot nous écrit juste, sans contestation, une démocratie est une dictature. Qu'est-ce que dit la sociologue là-dessus ?
Je suis d'accord. Puisque je n'ai que deux mots à dire, je suis d'accord.
Est-ce qu'il y a une vraie fatigue militante au sein des organisations en ce moment ? Qu'est-ce que vous ressentez, vous ? Parce qu'on voit des mouvements qui s'arrêtent, qui font des pauses, qui se remettent en question. Est-ce que c'est ça aussi qui caractérise un peu la séquence qu'on vit là aujourd'hui ?
Oui, c'est sûr qu'il y a ce fameux burn-out militant, c'est pas qu'une légende, parce que ce sont des activismes qui demandent beaucoup d'énergie et aussi beaucoup de soutien des organisations. Et le prochain défi, c'est est-ce que les organisations vont pouvoir aussi tenir de la longue haleine de ce mouvement de désobéissance civile.
Merci beaucoup à vous, Sylvie Littrow. Je renvoie vers votre ouvrage de sociologie, La désobéissance civile. Donc c'est aux presses de Sciences Po, et merci au studio de France Bleu Armorique à Rennes pour ce duplex.